À 6h11 sur Inter, des vies françaises à présent. Cette semaine dans les vies françaises, c'est le troisième et dernier épisode de notre rencontre avec Melvin McNair, cet ancien Black Panther, devenu médiateur dans le quartier de la Grâce de Dieu, c'est à Caen. Et on rappelle qu'en 1972, il avait détourné un avion de ligne des États-Unis vers l'Algérie. Portrait sonore, donc troisième volet, réalisé par Charlotte Perry.
Fallait toujours rêver quand même. Faut toujours rêver pour un monde meilleur.
Melvin McNair, épisode 3, l'exil.
On essaye de rencontrer le rêve de Martin Luther King. I have a dream.
Alors, pour reprendre le tram de l'histoire, vous êtes parti d'Algérie finalement.
Oui.
Vous êtes parti toujours clandestinement.
Oui.
Comment vous avez fait pour sortir de...
On a eu la chance de tomber sur des Français qui étaient aussi solidaires avec le Black Panther.
C'était le réseau d'Henri Curiel.
C'était le réseau d'Henri Curiel, Solidarité. C'était aussi une aventure parce qu'il fallait partir avec le faux passeport et n'importe quel faux pas, ça peut être catastrophique. Mais on était aussi planqués chez les gens... au-dessous de tout soupçon, des profs, des hauts fonctionnaires, des fonctionnaires.
Vous avez été caché chez des hauts fonctionnaires.
Certains fonctionnaires et des profs à l'université. Et c'était des intellectuels, c'était pas les gens pauvres. Donc ils avaient des moyens conséquents pour vivre tranquillement au-dessous de tout soupçon, on peut dire.
Là, vous étiez vraiment clandestin.
Clandestin pour être clandestin, là. Donc il n'y avait plus Melvin McNair, c'était un autre nom.
Vous appelez comment ?
Stanley, c'était mon nom de code. Et donc après, on était la famille Baker, Baker Family. Finalement, après quelques années, il nous a attrapés. Je crois qu'il y avait un certain moment que, avec nos fréquentations, à un moment donné, ils se rendaient compte qu'on était là. C'est souvent qu'on était dans la clandestinité, on avait des réunions avec des autres mouvements de libération. On se rencontrait aussi dans le sous-sol de Sorbonne, par exemple. Donc le porte de l'université était ouvert, même s'ils ont été clandestinement. Il nous a mis tous sous surveillance. Donc il y a un moment donné, comme c'est le moment avec le DST, quand ils ont décidé de nous arrêter, ils nous ont arrêté tout le monde. Vous savez où on était, tout le monde.
Donc, vous avez tous été arrêtés en même temps.
En même temps. Donc,
il y avait vous, Jean et Joyce.
Joyce. Et donc, c'était bizarre, on était en train de trouver le moyen de se rendre. Parce qu'on avait commencé à chercher des avocats à quel moment, parce qu'on commençait à travailler comme ça, trouver du boulot. On dit, tiens, on aimerait bien sortir cet enfer de clandestinité. Donc voilà quoi.
Donc au moment où ils vous ont arrêté, vous étiez de toute manière en train de penser à vous rendre.
Absolument, de toute façon.
Du coup, le procès, il a eu lieu en 76. Alors avant ça, il y a eu le combat quand même pour pas justement que vous soyez extradé. Parce que les États-Unis voulaient... Que vous jugez là-bas aux États-Unis.
Oui, donc après, le premier, quand on était arrêté justement, je crois en mai.
76.
Mai 76, donc justement, il y avait le premier procès, c'était de lutter contre notre extradition. Donc on a gagné. Ils ont décidé que notre acte était un acte politique, n'était pas criminel, donc ils ont décidé de nous juger en France.
Ils ont fait venir tous les témoins et bien d'autres personnes des États-Unis en France pour assister au procès.
Pour assister au procès. Nous, on a toujours dit qu'au niveau de l'erreur de détournement, mais la faute, c'était aussi qu'il y a des racismes qui nous a mis dans cet état. Donc, on voulait s'échapper de cette façon d'être. Et donc, après, il y avait le tribunal qui était plein. Mais bon, l'opinion publique était avec nous. Sauf les témoins. Il y avait certains FBI qui voulaient donner l'impression d'être assez menaçants et dangereux. Ce qui était absolument pas le cas. Donc, heureusement, la justice française elle avait fait un énorme travail et qui nous a aussi compris. Et donc, aussi, nous avons eu une justice assez clément. quand les femmes elles étaient libérées après 2 ans et demi. Et nous, on a pris 5 ans. On était, peut-être nos corps étaient enfermés, mais notre esprit était libre, quoi. Donc après, on avait beaucoup de choses à lire, on pouvait faire du sport, et donc après, on était, voilà.
Vous avez même écrit un livre, vous, en prison.
Oui, oui. Donc on avait aussi sorti le livre à travers nos avocats. Et ils ont utilisé toujours le livre pour un moyen d'expliquer pourquoi on avait détourné l'avion et pourquoi, voilà.
C'est ça qui était intéressant aussi dans ce procès, c'est que finalement, c'est... Au lieu de devenir le procès de 4 pirates de l'air que le FBI voulait faire passer pour des bandits, c'est devenu un peu le procès du racisme aux États-Unis, de la dénonciation de la condition des Noirs américains, quoi.
C'est oui, une tribune pour ça. Oui, oui, justement, c'était un tribune pour ça. Ils ont réussi de mettre le racisme en justice. Donc après, on était jugés. Donc on pouvait aller partout dans le monde, sauf en Amérique. Donc même maintenant, on peut pas aller aux États-Unis. Est venu refaire un procès à Miami, donc nous sommes libres ici. Nos enfants sont français, donc ils étaient éduqués en France, mes petits-enfants pareil, donc ils sont français.
Quelqu'un qui fait signe.
Oui. C'est l'heure, là ?
Non, la nuit.
Ok.
Donc après le procès, vous avez été libéré, vous avez pu récupérer les enfants, oui. Vos 2 enfants, Yohari
et Ayana.
Ils avaient quel âge, vos enfants, quand finalement vous les avez récupérés ?
9 et 10 ans. Chaque été, on les envoyait en Amérique. Quand Yohari avait 16 ans, donc il avait décidé de rester. Nous, on ne voulait pas, donc on a toujours fait tout pour qu'il rentre en France. Mais il était plutôt accroché à son grand-père, il aidait son grand-père jusqu'à il était finalement assassiné.
Il s'est assassiné, il avait quel âge ?
28 ans.
Thug Life. Thug Life. Microphone check. Outlaw. Outlaw. Microphone check. Thug Life. Outlaw. Outlaw.
Donc on disait, si on peut vivre jusqu'à 30 ans en Amérique, c'est bon, hein, déjà, en tant qu'Afro-Américain. Mais lui, il n'est pas réussi. Il se fait piéger comme beaucoup. Au niveau de délinquance, le crime, de drogue, tout comme ça, tout ce qu'on voulait qu'il ne vit pas. Yohari, il faisait cette génération de Tupac, quoi. Donc, à un moment donné, comme on dit, il se provoquait le diable, quoi. Donc, c'est un engrenage au niveau de violence contre soi-même. Si on a une mentalité de ghetto, victime, donc on sera toujours victime. Donc à un moment donné, il faut se libérer de cet esprit de victimisation pour aller plus vers l'avant. Donc après, c'est pas évident.
C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous avez fait, ce détournement d'avion pour que vos enfants et vous-même échappiez à la violence du ghetto, de la police, de tout ça, finalement, lui, ça l'a rattrapé, quoi.
Ça, justement, c'est là qu'il avait... L'idée, c'est pourquoi ? C'est si on peut avoir un menteur, quelqu'un qui peut nous aider, qu'on peut écouter pour nous aider à délivrer ça, c'est important. Et donc, c'est pas évident non plus. Parce qu'il y a aussi des gens qu'il faut qu'ils ont envie de changer.
Mais c'est ce que vous avez essayé finalement de faire oui. Toute votre vie ici.
Oui. D'essayer de sauver des gens, de faire tout que la France ne vienne pas comme Amérique. J'ai eu cette permanence-là avant que les gens aient découvert que j'étais un pirate. J'étais aussi un pirate. Donc ils ont découvert ça après.
Ils ne savaient pas au début.
Personne ne savait parce que je ne parlais pas. Je voulais vivre normalement, comme tout le monde. Donc j'étais animateur, médiateur. Je faisais du travail et donc voilà.
Aujourd'hui, vous êtes définitivement inscrit dans le quartier.
Ah oui, là, c'est totally. Comme ça, j'ai découvert ça, la grâce de Dieu. Je dis, tiens, c'est nickel.
Ça ne s'en rend pas, finir à la grâce de Dieu.
Oui, mais c'est rock and roll quand même. il y a des misères comme ça, parce que d'ici, c'est la grâce de Dieu. Oh, mais bonjour, on a des boulots. Hein. Donc, c'est au niveau symbolique, c'est puissant quand même. C'est quand même un sacré voyage. Pour moi, c'est qu'il aurait vu, ça c'est au bout du tunnel, que au début, quand j'ai tourné en avion, j'ai fini à la grâce de Dieu, quoi, entre guillemets. C'est un sacré parcours, on peut dire.
Avec le sourire. Des vies françaises, donc portrait sonore réalisé par Charlotte Perry.